pour cet effet littéraire, on va parler de rêve. Mais il y a des chances qu'on parle de cauchemar aussi, pour tout vous dire, à travers cette table ronde. Alors, vous voyez qu'il y a eu un petit peu d'organisation. D'habitude, les modérateurs sont plutôt sur les côtés. Là, je suis au milieu, pour une raison toute simple. Vous allez voir qu'il y a deux parties dans cette table ronde. D'un côté, à ma droite, vous aurez Anselme et Mathieu, où là, vous allez vraiment, à travers leurs livres, rentrer dans les rêves des gens. Et puis, du côté, à ma gauche, avec Cindy et avec Jim Hines, là, on va plutôt avoir une autre vision du rêve, mais là, qui vous concerne peut-être un petit peu plus, vous, lecteurs, parce que ce sont des auteurs qui vont peut-être vous donner envie de rêver ou cauchemarder. On verra. On va discuter. En tout cas, moi, je suis ravi d'abord de donner la parole à Anselme Mochkorn, tout simplement pour des raisons bêtes, basiques, parce que c'est comme ça qu'il faut faire la promo aussi du salon. C'est que ce soir, il recevra le prix Imaginal pour son roman Journal d'un marchand de rêve. Donc d'abord, félicitations. Merci. Et puis alors, parce que là, pour le coup, on est vraiment dans le cœur du sujet qui nous intéresse avec le rêve. Qu'arrive-t-il à votre personnage principal, à ce pauvre garçon qui, quand il dort, se découvre finalement une deuxième existence?
En fait, il m'intéresse à l'écran d'en rien. Oui, impeccable. Ce qui m'intéressait en fait avec le journal, composer un univers de fantaisie urbaine dans lequel les personnages ne soient pas trop puissants et soient confrontés finalement à des problèmes du quotidien. Donc j'ai justement ce choix d'avoir des personnages qui aussi entre le monde du jour, comme tout un chacun, et également le monde de la nuit, dans lequel tout devient possible, mais pourtant, chaque jour en fait, l'ombre revient comme une sentence, et toute la magie des rêves en fait est complètement dissipée. Et donc j'aimais cette ambiguïté, qui est quelque part assez révélatrice de la nature humaine. On a tous cette capacité à imaginer, à vivre maintes aventures, et pour autant nous sommes prisonniers du temps qui passe, de ces journées qui ne font que 24 heures, notre corps également, et donc malgré tout il faut réussir à s'imaginer soi, également enchanter le quotidien, et c'est là que le monde des rêves intervient.
C'est un monde qui a un côté miroir.
Oui, complètement.
Puisque le lieu principal, alors je ne vais pas arriver à le dire, donc ça va être un cauchemar encore, c'est Dolly Wu,
effectivement, qui est le palindrome en fait, l'inverse d'Hollywood. Et donc le but, c'était vraiment de mélanger donc, des éléments de toutes les époques, à la fois les futurs en devenir, mais également des passés qui auraient pu advenir si l'histoire avait suivi un branchement différent.
On va évidemment y revenir tout au long de cette table ronde. Mathieu Ribeiro, Les Arpenteurs de rêve, c'est dans la série de la trilogie. Le deuxième tome vient d'arriver. La question toute naturelle, c'est quoi un arpenteur de rêve?
Alors en fait, dans Les Arpenteurs de rêve, on a des personnages centraux, les protagonistes de la trilogie. Ça va être une colocation de trois étudiants, Céleste, Manon et Tal. Et en fait, ces personnes vont avoir le pouvoir de rentrer dans les rêves des gens, de voyager à travers les rêves et de les modifier. Et vraiment, là aussi, c'était une quête de l'intime, en fait, parce que le rêve, c'est beaucoup bon, à la fois, ça peut être quelque chose complètement absurde, complètement presque rassurant, tellement c'est absurde, mais ça peut vous rappeler douloureusement un événement traumatique, ou alors vous permettre d'espérer aussi, ça peut être un rêve d'anticipation prémonitoire, que sais-je. Voilà, il y a beaucoup de possibilités dans le rêve, et je trouve que c'est intéressant de parler.
On est aussi dans la fantaisie urbaine, on est à Lyon. C'était important aussi justement de placer cette histoire dans une réalité, j'allais dire, concrète.
Alors oui et non. Alors en fait, je voulais une ville contemporaine. Je ne voulais pas que ça soit forcément une ville emblématique comme New York ou Paris, parce qu'on n'a pas trop Paris. Et en fait, au début, je me suis dit, je vais faire une ville fantasque qui ressemble absolument à rien, sans nom, et puis les gens, ils verront ce qu'ils veulent voir. On en a parlé avec mon éditeur, il m'a dit, ça serait bien que tu mettes une vraie ville avec ça. Et il m'a proposé Paris, et je lui ai dit non. Et du coup, comme je vis à Lyon, Lyon s'est imposé. En plus, Lyon, c'est une ville qui a beaucoup d'histoire, qui a une histoire un petit peu magique. Donc, c'était un terrain de jeu adapté avec beaucoup de traboules, donc des ruelles entre les maisons qui sont ouvertes. Voilà, il y a beaucoup
de parcs. Des parcs. Ça joue beaucoup dans le deuxième terme en particulier.
Des fleurs, des fleurs aussi. Ouais.
Sylvie Van Wilder, avec vous, alors on va passer vraiment du rêve à la réalité, mais en tout cas, quand démarre Memorex, c'est une réalité, presque une vie de rêve, on peut dire ça.
Oui, enfin, une vie de rêve, on pense
avec
quand
des
même.
Complications, oui. Des complications de gens qui ont les moyens d'avoir ce genre de complications.
Oui, ben, en même temps, je parle quand même d'un millionnaire ou d'un milliardaire, je ne sais pas, qui à qui ça propile, donc forcément, il devrait quand même avoir un petit peu les moyens. Mais bon, ce que je vois aussi dans, ce que je décris aussi dans Memorex, c'est que avoir les moyens ne signifie pas toujours vie de rêve, et même que la réalité qui peut malheureusement nous frapper tous, a frappé justement des gens qui justement avaient les moyens, les ressources peut-être pour l'éviter, mais voilà, le destin on a décidé autrement.
Alors qui sont les personnages principaux de Memorex justement, et à quoi sont-ils confrontés, en tout cas au début dans leur vie quotidienne avant que les choses ne s'emballent vraiment?
Donc en fait ce Memorex donc, est un toménique, il est décrit un petit peu comme un thriller d'anticipation puisqu'il se passe dans un futur proche, et on va suivre en fait, puisqu'il s'agit de la collection électrogène de Gulfstream, c'est un young adult, donc il se concentre sur Réa, une jeune fille qui justement il y a un an a presque tout perdu puisqu'elle a vu la fondation où travaillait sa maman victime d'un attentat. Elle a subi bien sûr des décès, des blessures elle-même psychologiques et physiques, et bien sûr elle a du mal beaucoup à s'en remettre. Ce qui n'aide pas, c'est que sa famille s'est un petit peu chacun retranché dans sa propre bulle, dans son propre dilemme. Et en plus, pour compliquer le tout, à l'approche du premier anniversaire donc de la commémoration de cet événement tragique, elle va recevoir un mail anonyme, qui va justement lui dire une seule question, c'est « Te souviens-tu ?». Et à partir de là, en fait, elle va douter d'elle-même, mais surtout de tout ce qui peut l'entourer, c'est-à-dire est-ce qu'elle se souvient réellement de ce qui s'est passé il y a un an. Voilà pour le pitch.
Mais on va revenir évidemment tout au long de cette table ronde. Tim Hines, avec la série du Biblium ancien. Tim Hines, lui, dans cette table ronde, on va parler de lui comme quelqu'un qui nous fait rêver en nous proposant quelque chose d'extraordinaire. Imaginez quand vous êtes en train de lire un livre, vous plongez la main dedans et vous ressortez l'objet qui vous intéresse, que vous avez vu dans l'histoire, et pour vous en servir. Alors, on voit évidemment au fur et à mesure de l'histoire que la fantaisie n'est que paix et amour, puisqu'en général, c'est quand même un arsenal gigantesque qui ressort des livres. Mais c'est vrai qu'il y a quand même cette idée. Comment vous avez cette idée extraordinaire d'aller plonger la main dans les livres?
I wanted a lightsaber. Je voulais un sabre laser.
The idea came about really because an editor had asked me to write a short story about Titash, the fire spider from my Goblin books. But she wanted me to write it in the present-day real world. So I'm sitting there thinking, how do I get this character out of, how do I pull it out of a book and put it in the real world? Well, let's make it a wizard who can pull things out of books and put it in the real world. And so I wrote the short story, but once that idea had sort of taken root in my brain, possibilities. There are so many books, and writing these four books was basically spending 4 years imagining and dreaming about all of the wonderful things I could create, and wishing, and yes, occasionally even going to books and saying, is it working? Oh, no.
En fait, l'idée m'est venue principalement quand une anthologiste est venue me voir pour me demander d'écrire une nouvelle mettant en scène Titash, c'est-à-dire l'araignée flamme qui est présente dans ma série précédente, Le Graal du Gobelin. Mais elle voulait que ce personnage apparaisse dans notre monde réel à notre époque.
Et je me suis posé la question. Juste préciser un truc, c'est que quand Titash s'énerve, tout brûle autour. Hein. Donc voilà, vous imaginez ce qu'on peut faire effectivement dans notre monde avec un petit personnage comme ça.
Et je me suis demandé, je me suis dit, comment est-ce que je peux faire pour tirer Titash d'un livre et l'amener dans notre monde. Et là, je me suis dit, il suffit d'avoir un magicien qui peut tirer les trucs d'un livre et les amener dans notre monde. que j'ai écrit la nouvelle, mais une fois que cette idée, j'ai eu cette idée et qu'elle s'était enracinée dans ma tête, je me suis dit, oh, les possibilités que ça peut ouvrir. Et donc j'ai écrit ces quatre livres en quatre ans sur le monde de l'imagination, et c'était une forme de rêve, et sur le monde du rêve, et les choses merveilleuses que ça m'a permis de créer, c'était fantastique, à tel point que j'avoue, ça m'arrive de temps en temps, je prends un bouquin et je presse sur les pages en disant ça marche.
D'ailleurs, votre personnage, c'est un rêveur.
Oh, vous verrez, c'est un geek, c'est un nerd. Oui. Et moi, Isaac is very much a dreamer. He is the personification of that sense of wonder. You know, the first time we read a book that we get lost in and we start seeing possibility, we read science fiction and we end up imagining, I want to live on the moon, I want to go to Mars, and you get lost in those dreams and all those possibilities. That is very much Isaac. Isaac is also a libromancer. He can pull things out of books. His dreamer side sometimes gets in the way because he is too enthusiastic and too excited and accidentally breaks things. But in general, he loves the possibilities. He loves the magic. Even when things are chasing him and trying to eat him, he's going, wow, that's beautiful. I have to blow it up now, but wow. Yeah, he loves it. He is very much a geek, very much head in the clouds dreamer.
Oui, Isaac est totalement un rêveur. C'est un peu en quelque sorte l'incarnation du sense of wonder, de l'émerveillement que l'on ressent dans la lecture et dans l'imaginaire. C'est un petit peu comme cette première fois où vous vous perdez véritablement dans un livre et dans les possibilités que ça ouvre et que vous y réfléchissez et que ça vous fait rêver. Par exemple, vous lisez des livres de SF et vous vous dites, je voudrais vivre sur la Lune ou je voudrais vivre sur Mars. Vous vous perdez dans tous ces rêves et ces possibilités. Et ça, c'est totalement Isaac. Donc, c'est le bibliomancien du titre. Il peut plonger dans des livres et en sortir des choses. Et donc, c'est vraiment un rêveur. Et parfois, d'ailleurs, ça lui pose des problèmes. Il peut devenir un peu trop excité, un peu trop enthousiaste. Ce qui fait qu'il finit par casser des trucs, des fois. Mais vraiment, il aime les possibilités, il aime cette magie et cette imagination. Même au point où, des fois, il y a des monstres qui lui courent après pour le dévorer. Et il ne peut pas s'empêcher de s'arrêter pour le regarder et faire « Waouh, c'est tellement beau, c'est tellement cool, bon, il faut que je fasse sauter, mais waouh !» Donc, il adore ça. C'est un geek et c'est vraiment un rêveur. Il a la tête dans les nuages.
Cet tableau est très, très compliqué. Anselme, le fait que votre personnage, on va le dire, parce qu'on l'avait tout à l'heure, mais il est scénariste. Donc le fait qu'il se retrouve avec un paysage de rêve qui soit le reflet d'Hollywood, c'est pas totalement non plus un hasard, mais ça influe quand même aussi sur ce qu'on découvre à l'intérieur de ses rêves, parce que c'est aussi le reflet de cette industrie permanente du divertissement et du spectacle.
Alors, le divertissement aussi entre le monde de la nuit et celui du jour, il s'agit pas de trouver des ponts entre les deux, de justifier effectivement cette double positionnement de l'histoire. Et donc on prend effectivement au départ un personnage donc scénariste d'Hollywood, toute ressemblance avec l'auteur serait toujours fortuite, y compris le côté pré-autodérision et on va dire le doute permanent du personnage. Et ensuite que ressent actuellement l'auteur devant une simple bande de personnes qui l'écoutent, je ne sais pas si c'est un personnage. Là vous me donnez la matière pour le tome 2, je vous remercie beaucoup.
Merci. Il a un petit côté personnage de roman noir. Le fait qu'il raconte à la première personne avec un certain cynisme, il a un petit côté Marlowe.
Alors, effectivement, je suis également un grand fan de Woody Allen. Donc, mon personnage Walter, c'est un peu Woody Allen, non, plus jeune, néanmoins. Je vois sur l'ouvrage correspond également aux enfants. J'ai évité les aspects plus célèbres du personnage. On trouve juste par contre ce grand doute de soi et cette capacité à être dans des situations extrêmement inconfortables.
Ça veut aussi dire que lorsqu'il va commencer à voyager dans ses rêves, il va aussi croiser des éléments qui sont des archétypes cinématographiques.
Oui, tout à fait.
On reste des romans. western, on croise un peu de steampunk aussi.
Oui, complètement. Bah, de toute façon, le steampunk, c'est une peinture de fusion. Alors, je ne prétends pas expert en la matière, mais j'apprécie la grande liberté que le steampunk me procurait. Et donc, du coup, on reprend les archétypes. Alors, je suis un auteur très malhonnête, j'ai plein de défauts, vous allez découvrir au fur et à mesure de l'intervention, n'est-ce pas ? Tout celui d'aimer piéger mes lecteurs. Donc, je vous le dis en anglais, j'aime bien en général quand je propose un univers, hein, me documenter sur celui-ci, me faire une idée à peu près raisonnable de ce qu'un lecteur qui peut être intéressé par l'ouvrage a pu lire auparavant et m'en resservir contre eux. Je suis un personnage abominable, vous me laissez au moins celui de devant, s'il vous plaît, que je puisse quitter la salle avant d'échapper au lynchage. Surtout que vous avez tous lâché, puisque je rappelle ces prix imaginaires comme cette année, hein, donc n'hésitez pas, n'hésitez pas à le lire. Mais tant que je suis comme un agent, ça. Mathieu Rivero, les arpenteurs de rêve, alors Céleste, c'est ça. Elle arrive à Lyon. Elle vient d'assez loin, on comprend. Elle vient d'outre-mer, Nord-Norwich. Voilà. Et quand elle arrive, elle ne sait pas qu'elle possède ce pouvoir d'aller dans les rêves des autres.
Alors en fait, Céleste, c'est un peu le personnage naïf, le Mégatron. Alors effectivement, elle arrive de. D'un département d'outre-mer fictif qui s'appelle Porto Rico. En fait, c'est Porto Rico, mais pour les besoins du tome 2, j'avais besoin d'un truc à Porto Rico. Et, parce que c'était plus marrant. Et en fait, elle arrive pour faire ses études, pour se rapprocher de sa mère, et elle est un peu naïve. Sauf que ben, sa mère est sorcière, son père a des amis bizarres, sa sœur est sorcière, mais elle n'a pas de pouvoir, c'est un peu le vilain petit canard, et elle découvre, et en fait, découvre son nom grâce à ses colocataires. Elle n'est pas surprise en fait. Elle l'adopte et elle l'embrasse assez facile. Mais elle a quand même effectivement là aussi de cette secondaire, elle découvre, elle s'émerveille devant ça. Et en même temps, elle découvre tout un monde de possibilités.
Sachant que quand il voyage dans les rêves, il y a à la fois, on va dire, les rêves très quotidiens, les gens qu'il côtoie et qu'il connaissent, ou qu'il ne connaissent pas d'ailleurs, dans lesquels ils vont rentrer et puis peut-être interagir volontairement ou non. Et puis. Alors, un peu comme chez Amundsen, il y a une espèce de monde parallèle dans cet univers onirique.
Alors oui, du coup, ils vont découvrir ce qu'ils appellent le grand songe très vite. Le grand songe, c'est un rêve qui n'appartient à personne et qui ne s'évanouit pas le matin venu. Avec le matin venu, il y a ça aussi, effectivement, le côté évanescent d'un rêve qui s'évapore, qui disparaît de la mémoire. Et bien là, ce rêve, il ne disparaît pas, on peut retrouver les lieux. Mais en fait, ces lieux, ils sont quasi déserts, ils sont attribués, ils sont assez monolithiques. Attribuer un sentiment assez particulier ou assez menaçant en fait. Et justement, ils vont essayer de comprendre pourquoi est-ce que c'est là et de comprendre la nature en fait.
Ce qui va être le point déclencheur ensuite de tout un tas d'autres choses dont nous ne parlerons pas ici, puisque bah voilà, nous sommes sur le rêve. Alors, donc on ne parlera pas des autres aspects.
Non, il y a beaucoup de l'histoire. Sylvie
Van Wilder. On a donc ce personnage de Réa qui s'interroge sur elle-même, sur ce qui s'est passé depuis un an et depuis l'attentat terrible qui a frappé sa famille. Les réponses, elle espère les trouver auprès de son père. Il se trouve que ça tombe bien, c'est les vacances scolaires. Donc, elle va partir sur l'île de son papa. Et là, on retrouve un décor de rêve, pour rester dans la thématique du décor paradisiaque. Et en même temps, c'est un peu oppressant comme endroit.
Non, juste un tout petit peu en fait pour l'endroit oppressant. C'est ironique. Je précise quand même pour ceux qui n'ont. Et ceux et celles qui me croiraient au premier degré dans la salle. Non, mais voilà, en fait, ce que je voulais donc dans ce thriller d'anticipation, c'était aussi prendre. Un petit peu un décor qui est donc un huis clos, puisqu'on a énormément quand même dans la lignée du polar, du thriller, des huis clos qui se déroulent donc sur une île. C'est quand même un petit peu le décor oppressant par excellence. Et en plus, il y avait peut-être la petite notion de rendre hommage à quelques classiques de la science-fiction, ou du moins de l'imaginaire, comme, je vais pas trop en dire, mais comme l'île du docteur Moreau, par exemple, ou... Et qui demeure un classique dans ce type de littérature. Voilà. Maintenant, pour ce qui est un décor de rêve, c'est vrai, maintenant j'ai pris l'île tropicale, comme je le disais, en plus l'île totalement privée, le genre de destination, on vous propose ça en 5 minutes, vous dites ok, je fais quand mes valises. Oui, ça c'est sûr. Généralement, mais c'est mieux. Et en même temps, je voulais dire que voilà, là aussi, je voulais prendre un petit peu le contre-pied de ce qui, à première apparence, avait l'air d'un paradis sur Terre. Tout doucement, vraiment.
J'imagine la première aventure, puisque le deuxième tome du Biblion Ancien vient de sortir, mais évidemment, on va se concentrer un peu plus sur le premier pour les personnes qui ne vous auraient pas encore lu. Le roman s'ouvre, et ça commence bien, puisque vous réduisez en cendres une bibliothèque entière. Ça commence quand même très très mal.
Michigan State University Library. I went to Michigan State University. I got lost in that library. Freshman year, I spent over an hour trying to find this article that I needed for a research paper. And so now, many years later, I am a writer. I have the power to take my revenge. Yeah, it does kind of undermine the whole love of books that is the basis of the series. I love all the books except MSU. Bad books. Bad library. And I live in Michigan, so I do signings, and people from that library come to me, and you blew up my workplace. I'm sorry. Isaac did it.
Alors, la bibliothèque qui est réduite en cendres au début, c'est la librairie de l'Université d'État du Michigan, où je suis allé quand j'étais étudiant, et je me suis perdu dans cette bibliothèque. J'étais dans ma première année d'études, j'ai passé une heure à essayer de trouver un fichu article pour un papier, et donc, bien des années plus tard, je suis auteur de science-fiction, j'ai la possibilité de me venger. Alors, c'est vrai que ça va un peu, ça joue un peu le contre-pied par rapport à tout ce que je disais sur l'amour des livres. J'aime tous les livres, sauf ceux de la librairie, de la bibliothèque de l'Université d'État du Michigan. C'est des livres méchants et c'est une bibliothèque méchante. Mais alors, ce qui est, parfois, j'ai des gens, parce que j'habite dans le Michigan, et parfois j'ai des gens qui travaillent à la bibliothèque de l'Université d'État du Michigan qui viennent me voir en séance de dédicace et qui me regardent et qui font « Vous avez fait sauter l'endroit où je travaille. » Pardon. C'est pas moi, c'est Isaac.
Mais je veux dire que c'est pas... Là, pour le coup, il le fait pas exprès. Hein. C'est juste qu'il est victime d'une attaque extrêmement violente. Ce pauvre garçon, il a rien demandé.
Isaac would never do that on purpose. And in fact, he is rather horrified that somebody destroyed a library. There is a quote a little bit later where Isaac is saying, libraries and bookstores, these are the closest thing I have to a church. This is as much as I love books, as much as I am a geek, Isaac is even more so. The poor guy. So no, he would have done everything he could have to prevent that. Unfortunately, the way Isaac's life goes, these things tend to happen around him. Which... You feel bad for Isaac, but it makes a better book.
Oui, non, Isaac ne ferait jamais une chose pareille volontairement. D'ailleurs, il est assez horrifié que quelqu'un ait pu vouloir détruire une bibliothèque. D'ailleurs, il y a une citation un peu plus loin dans le livre où il dit que les bibliothèques et les librairies sont pour lui ce qui s'approche le plus d'une église. Et pour autant que je sois un geek et que j'aime les livres, encore plus le cas. Pauvre de lui. Mais si, voilà, s'il avait pu, il aurait fait tout ce qu'il aurait pu, en son, tout ce qui était en son pouvoir pour empêcher que cette chose-là arrive. Malheureusement, c'est Isaac, et ce genre d'événement tente à se produire dans son entourage, ce qui est triste pour Isaac, mais ce qui, j'espère, fait une meilleure histoire.
I don't know if this will translate, but there is a Princess Bride line about the library incident, where Isaac is getting to the people who are responsible. He says, "Hello, my name is Isaac Vainio. You killed my library. Prepare to die."
Donc, il y a une citation dans le deuxième livre où à un moment, donc, Isaac se trouve face à quelqu'un qui est responsable de la destruction de sa bibliothèque. Il, y a donc une, il se présente à lui en bon aficionado de Princess Bride et lui dit: "Bonjour, je m'appelle Isaac Vainio. Tu as détruit ma bibliothèque. Prépare-toi à mourir."
Vous pouvez, ouais.
Ça fait deux ans que Lionel Davos s'est transformé en traducteur à l'effet.
C'est tout à fait marquant.
En fait, moi, je parle. On a un petit peu porté le décor. Ce qu'on n'a pas dit, c'est que votre scénariste est au cœur de votre histoire. Il a le problème, comme tous les scénaristes du monde entier, c'est qu'à un moment, il faut trouver l'inspiration. Et lui, il galère dans la vie dure, on va dire, pour trouver cette inspiration. Or, il a une vie qui, on l'a bien compris, est extrêmement riche, voire carrément dangereuse. Et il y a cette interaction, finalement, d'un côté à l'autre, où on se dit, tiens, mais est-ce que l'inspiration, on ne pourrait pas la trouver dans les rêves, finalement?
Alors voilà, une autre légalité qui va surgir. Des parfois un peu paresseux, qui m'a fait espérer qu'il existe peut-être quelque part une substance Isaac Cavry dans les acheteurs. Je suis votre principal client, manifestez-vous. Il y a une sorte en fait de sable des lacs qui serait de l'inspiration à l'état pur. Le personnage tombe dessus par inadvertance. Au début, il est assez convaincu en fait d'une grave crise d'ingestion, de tomber sur un produit absolument néfaste sans intérêt aucun, jusqu'à ce qu'après, il part pour un long run d'environ 72 heures d'écriture ininterrompue, avec envoi de manuscrits, avec réponse d'un studio intéressé, d'un autre studio, d'un troisième, quatrième, un pugilat de producteurs se déclenche pour s'arracher son manuscrit. Vous l'aurez compris, en parlant pas des rêves de Walter, mais des miens.
C'est vrai que du coup, il va courir vraiment aussi après cette substance, ce fameux sable. Alors, on voit bien le marchand de sable, etc. Et puis, mine de rien, il a une vie dure assez terne. D'une certaine manière, il ne se passe pas forcément grand-chose. Il a une fionnérique en revanche, ou alors tout se déchaîne d'un seul coup, aussi bien sur un plan sentimental que sur un plan relationnel, que carrément sur les mises en danger qui lui arrivent, parce que derrière, lui aussi, pour le coup, on fait sauter des lignes chez nous, on fait voler à peu près tout ce qui peut passer sur la main aussi.
Walter est un garçon délicat et feutré, malheureusement légèrement maladroit, avec une tendance pandémique à attirer les problèmes. Ou les filles à problème, effectivement. Après, je pense qu'en fait, c'est un cœur d'aventurier qui bat en moi, un aventurier contrarié de passer de si longues journées enfermées dans son bureau. Et là, je cite presque mot à mot les paroles de ma chère étendoir.
Monsieur Rigaud, les arpenteurs de rêve, par là, se posent effectivement d'abord une question morale aussi. Est-ce qu'on peut impunément aller traficoter les rêves des gens, est-ce qu'on peut influer sur leur vie quotidienne, là aussi la vie réelle, en allant tripatouiller leurs rêves? C'est aussi une question qui se pose dans le premier tome.
Alors la réponse est c'est tout à fait immoral. en fait ça m'a... Quand on m'a posé cette question, j'ai immédiatement pensé à Orson Sinclair dans Dino Fazer, où il y a un personnage qui n'a comme seul don d'allumer les feux. Et en fait, ce personnage dit: j'ai jamais envie d'utiliser ce pouvoir, ça ne fait que brûler et détruire des choses. Donc plus je l'utilise, plus j'ai des chances de détruire. Et en fait, ce don de manipuler les rêves des gens, c'est ça. C'est aussi malheureusement rentrer dans l'intimité des gens, et c'est pas un pouvoir dont il est facile de se servir. C'est un pouvoir qui
si on s'en sert sur soi, on a des problèmes.
Ça part d'un bon sentiment, parce que dans le tome 2, on croise un personnage. Alors, je ne sais pas si on peut trop en dire dessus, mais elle ne vit plus que dans ses rêves.
Oui, du coup, il y a des personnages en fait qui vivent dans les rêves, qui restent cloîtrés dans les rêves. Du coup, je ne vous dis pas ce qui leur arrive dans la vie, hein, vous découvrirez dans le tome 2. Mais effectivement, la tentation de vivre dans ses rêves, bah, c'est quelque chose malheureusement qui existe. C'est ce que je fais en écrivant des livres. C'est comme Anselme qui a envie d'inspiration. Moi, j'ai juste envie de rêver et qu'on me laisse rêver tranquille.
Il y a un petit côté Sims dans cette scène, d'espèce de réalité virtuelle où on se réinvente complètement.
Je sais pas, je me vois pas avec un petit diamant sur la tête ni le personnage.
Non, mais elle se crée une plage.
Elle se crée une plage, mais du coup, en fait, cette plage, elle est complètement factice. Du coup, il y a des cocotiers Lego et un soleil couchant qui ne se couche jamais. Et c'est, ça en est tragique, en fait.
C'est totalement pathétique, c'est même délicat.
En fait, c'est un paradis qui est figé et du coup, bah, c'est absolument pas ça. D'ailleurs, ça rejoint sûrement ce qu'a écrit Sandy avec l'île un peu bunker, qui est très pesante.
Elle est comme Lego,
mais c'est pas Lego. Mais en tout cas, l'île paradisiaque, en fait, tout le monde est dans une stase dans ton roman. Et vraiment, il n'y a pas de mouvement. C'est Léa qui essaye de réactiver le mouvement en soi.
C'est des choses, là encore, on s'imagine un havre de paix, de tranquillité, de calme, de sérénité.
Mais c'est vachement emmerdant après, en fait.
Plus calme et volupté.
Oui, mais là aussi, c'est vachement emmerdant.
Ok, je peux vous
assurer. Également. Et puis, bah, là, d'un seul coup, l'enfer se déchire.
Oh, ça fait beaucoup un titre à la Die Hard, ça, en fait. Non, plutôt. Disons que oui, en fait, on peut dire que l'enfer se déchaîne, mais c'est un enfer assez toujours assez feutré, toujours aussi en sur la psychologie des personnages, puisque c'est ça aussi qui m'intéresse beaucoup. C'est pas vraiment les effets spéciaux à la Hollywood où tout se déchaînerait en chaîne et que vous n'avez plus qu'une île paradisiaque. Ouais. Tout est dévasté. Ce qui m'intéresse plutôt, c'est de voir l'effet sur vraiment la psychologie des personnages. Et d'ailleurs, je ne suis absolument pas fan non plus, pour reprendre toujours le parallèle avec les films d'action, des auteurs qui vous disent dès les 10 premières pages, voici les gentils, voici les méchants. Personnellement, je préfère que le lecteur ou la lectrice se fasse son idée à soi et qu'il puisse juger. Peut-être en son âme et conscience, pour reprendre une sentence juridique de ce que chaque personnage est amené à faire et aussi à voir dans le roman.
C'est un roman sur les secrets, sur les non-dits, sur la difficulté de communiquer.
Oui, totalement, totalement. C'est ce que j'ai voulu aussi un petit peu, avec aussi la relation un petit peu fusionnelle entre Réa et Aiki, qui est son frère jumeau. Et justement, je voulais prendre un petit peu le contre-pied de ce qu'on voit souvent dans les livres de young adult et même adultes concernant la relation gémellaire, donc des êtres très fusionnels. Je voulais en fait les voir éclater en morceaux, les voir complètement isolés l'un avec l'autre, et surtout de me poser la question, mais qu'est-ce qui a bien pu leur arriver pour qu'ils en soient à ce point-là ?
Ça, vous serez les amis. Voilà. C'est fait comme ça. On a parlé d'Isaac jusqu'à présent et on l'a présenté comme un être ordinaire, normal. Or, c'est totalement faux de le présenter ainsi parce que ça n'est pas le cas. Qui est vraiment Isaac? Est-ce qu'on peut le dire? Est-ce qu'on peut le dire?
Isaac is my wish fulfillment fantasy. Man, I wish I could be a librarian pulling things out of books and driving around in a magic convertible with... Although I don't think I would want a pet spider. Chitash is wonderful, but I don't like spiders. In terms of the book, Isaac is a young passionate fan and a dreamer. He is constantly thinking about, okay, we have magic. What could we do with that? You know, he is the person who would watch the Harry Potter movies and say, okay, you have all of this magic, and you can't invent magical email. You're still sending stuff by owls. If you can apparate and teleport, can you go to the moon? Can we travel to Mars and colonize a planet with magic? Why are you not doing these things? And then he runs off and tries to do them and causes trouble. But yeah, he is very much a dreamer, someone who is very optimistic, very hopeful, sometimes too much. But at his core, that's him. He is that sense of wonder. And my wish fulfillment.
Isaac, c'est quand même beaucoup l'incarnation d'un fantasme personnel. Ah, bon sang, j'aimerais être bibliomancien et pouvoir tirer des trucs des livres. J'aimerais pouvoir me balader dans une décapotable magique. Par contre, j'aurais pas tellement envie d'avoir l'araignée apprivoisée. J'aime pas trop les araignées. C'est un petit âge, c'est un merveilleux personnage, mais j'aime pas trop sa bestiole. En son cœur, Isaac, c'est un fan de science-fiction et fantasy, jeune, passionné. C'est vraiment un rêveur qui passe sa vie à réfléchir aux possibilités que la magie offre. C'est un peu le genre de type qui regarderait Harry Potter, qui voit, qui se dit, bon, on aurait toute cette magie à disposition, et qui dirait à son livre ou à son écran, vous avez toute cette magie-là, mais vous n'avez toujours pas inventé des emails magiques. C'est-à-dire, vous êtes toujours en train de vous balader avec des. Vous envoyer des messages avec des chouettes. Ou alors qui se dirait, ok, génial, vous pouvez vous téléporter. Est-ce que vous pouvez coloniser la Lune? Est-ce que vous pouvez coloniser Mars? Vous avez toute cette magie, si vous avez toute cette magie-là, vous avez possibilité de le faire. Pourquoi vous ne l'avez pas encore fait? Et alors, donc, lui, Isaac, il a très envie de faire ça, il essaie de faire ça, et évidemment, il cause tout un tas d'ennuis. Mais voilà, en son cœur, c'est vraiment un rêveur, un optimiste, quelqu'un qui est plein d'espoir, peut-être un peu trop, et qui incarne cet émerveillement de la littérature et quand même beaucoup un fantasme personnel.
Il se trouve que son destin, c'était pas forcément d'être bibliothécaire.
Isaac, when the book begins, Isaac is very young, and I'm sure some of us remember being much younger and doing things that perhaps were not the best choices. Not me, of course, but Isaac, you know, he discovered magic when he was a teenager. He was very enthusiastic. He was not very careful. And so he was told by the magical organization, by Johannes Gutenberg himself, you're done. You are no longer to use magic. We're going to make you a cataloger. Because Libromancers use books, so they keep a catalog of all of the new releases, all of the books that are coming out, and what they could use it for. They have a database of all of your books saying, if we use this book, we can do dream magic. And if we use this book, we can get lots of Legos. And it's all in a database. And Isaac begins as a cataloger. He's reading the books. He's putting them into the system. And it is hell because he's cataloging magic he's not allowed to use. There are exceptions to that rule. He is allowed to use magic if something is trying to kill him. And so the best possible thing happens. Sparkly vampires show up and try to kill him. And he's like, yes! Now I can use magic again! And it starts him toward redemption and toward regaining his status as a Libromancer. I talked too fast for my translator.
Quand le livre commence, Isaac est très jeune. Et comme peut-être certains d'entre nous, quand on était beaucoup plus jeunes, on a pu éventuellement faire certaines choses qui n'étaient peut-être pas les meilleurs choix au monde. Pas moi, hein, bien sûr, jamais. Donc, en fait, Isaac a découvert la magie quand il était adolescent. Il était extrêmement enthousiaste, passionné. Par contre, il faisait absolument pas attention à ce qu'il faisait. Et il y a l'organisation dirigée par Gutenberg qui est venue le voir et qui lui dit « Non, toi, c'est fini, tu arrêtes, tu ne dois plus utiliser cette magie-là, c'est trop dangereux, tu fais trop de bêtises, tu seras dorénavant au catalogue. » Parce qu'en fait, les bibliomanciens donc, utilisent des livres pour utiliser leur magie, donc ils ont un catalogue, et notamment ils inventorient toutes les nouvelles sorties, toutes les nouvelles publications, pour voir ce qu'ils peuvent en faire, pourquoi ils peuvent s'en servir. Donc par exemple, les bibliomanciens ont le catalogue, et tous vos livres sont dans le catalogue des bibliomanciens. Par exemple, si on utilise le tien, on peut faire de la magie basée sur les rêves. Si on utilise le tien, on peut sortir plein de briques de Lego. Tout ça, c'est dans la base de données. Et pour lui, c'est l'enfer, parce qu'il catalogue, il inventorie tous ces livres magiques qu'il voit passer, sauf qu'il n'a absolument pas le droit de s'en servir. À une exception près, c'est si quelque chose essaie de le tuer. Et un jour, la meilleure des choses possibles arrive, il voit débarquer une bande de vampires qui étincelle en plein jour, comme des boules à facettes, qui cherche à le tuer, et là, oui, super, enfin, je peux à nouveau utiliser ma magie parce qu'on essaie de me tuer. Et ça démarre son chemin vers la rédemption, peut-être le fait de récupérer son statut en tant que bibliomancien à part entière.
On a un personnage avec vous aussi qui, alors, peut-être pas dans sa vie quotidienne, quoique il a un copain qui est quand même un gros boulet dans la vie quotidienne.
Je n'ai pas du tout habitué à vivre, alors pas du tout.
Mais alors, dans sa vie rêvée, c'est quand même. Il attire quand même gentiment la presse.
Pour pas dire plus.
Alors, c'est pas rien. C'est un jeune homme, comme beaucoup de jeunes hommes, sauf Tim Allen, non plus jeune, lui, est au-dessus de ses considérations. Quelques alliés aussi, on peut tuer quelqu'un par pure amitié.
On peut même aussi cacher son cadavre après par pure amitié.
Bien sûr, on aide à ranger.
C'est serviable.
Mais du coup, c'est vrai qu'il se retrouve embarqué dans une histoire un peu qu'il dépasse. Ou en plus, il n'a absolument aucun repère puisqu'il n'est pas dans un monde tangible comme pourrait l'être le nôtre, avec les mêmes codes, avec les mêmes règles, avec les mêmes lois. Il va falloir apprivoiser tout ça.
Alors, on est comme face à l'univers, vous l'aurez compris, qui est foisonnant. Foisonnant étant ici un synonyme politiquement correct pour bordélique. Donc, du coup, j'avais grand besoin d'un personnage naïf dans un premier temps qui me sert un peu de caméra pour expliquer ce grand foutoir qui est l'erreur où tout est possible et son contraire, ou presque. Et donc, on est en face à un type de personnage qui se découvre des ressources insoupçonnées au fur et à mesure, grâce à un long, pénible, douloureux, parfois létal, apprentissage par l'erreur. Voilà. On va pas trop vous en dire parce qu'effectivement, il y a énormément de rebondissements. Et puis surtout, parce qu'au fur et à mesure qu'il fait les allers-retours entre la nuit et le jour, et entre la réalité et le rêve, il y a des choses qui changent et qui évoluent. Donc forcément, il y a ce côté très, très étrange. Par un moment, le seul point qui ne bouge quasiment pas, c'est la chambre dans laquelle il atterrit quand il passe d'un état à l'autre.
Exactement. En fait, Gamer, c'est un monde qui est assez flexible. Ce qui m'intéressait plus, et là je vois complètement Mathieu, c'est la dimension intimiste des rêves. J'ai eu plusieurs fois cette discussion. On écrit avec des mots, certes. On écrit beaucoup avec des sentiments. Un ouvrage, en fait, c'est comme une quête intime. Et surtout, on est sur un matériau qui n'est pas celui de l'image, qui n'est pas celui de la musique, et pourtant j'adore les autres formes d'art. On est sur le matériau peut-être le plus proche de la pensée. Et donc, du coup, on est quelque part déjà en train de faire un bout de chemin avec le lecteur. Un roman, ce n'est jamais en fait qu'une amorce. Et disons-le franchement, les auteurs, personnellement, étant pénant de naissance, je laisse bien sûr le lecteur faire la moitié du chemin avec moi, autrement dit, apporter votre imagination à l'ouvrage. Et on ne dira jamais assez, c'est le lecteur qui fait vivre l'ouvrage grâce à ce qu'il apporte, grâce à votre ressenti. Notre travail, en fait, c'est plutôt de chercher, comme des petits marionnettistes, à tirer là où les bonnes
Material, le grand songe, c'est un univers qui est presque un univers de fantasy, qui est très sombre, beaucoup plus sombre finalement que les rêves quotidiens qu'on peut croiser aux alentours, qui est plein de mystères. Alors là, c'est très difficile d'en parler parce que je pense qu'on aura des réponses dans le troisième tome qui reste à paraître, mais on est quand même voilà, dans quelque chose. Est-ce qu'il y a des inspirations particulières qu'on va créer ce grand songe?
Alors en fait, je vais rebondir sur ce que vous venez de dire. En fait, je voulais parler de sentiments. Je voulais qu'on ait un espèce de niveau zéro du sentiment, une sensation brute. Par exemple, il y a une colline boisée dans laquelle tout le monde se sent menacé et abandonné, et dans laquelle il y a des cauchemars, des créatures cauchemardesques qui rôdent. Et en fait, on n'arrive jamais à voir ces créatures parce qu'on sort du rêve toujours avant d'arriver à les voir. On les entend, on sent le sol trembler à leur approche, mais on n'arrivera jamais à supporter leur vision quand on s'en va. Et en fait, c'est, dans les gardons, on a des trucs en fait. Non, mais il y a des choses dans les reflets aussi, avec les reflets d'eau. Mais du coup, en fait, l'inspiration, en fait, c'est vraiment. Quelque chose d'assez, un sentiment assez brutal, effectivement. Donc, je m'inspirais de sensations. Bah, par exemple, il y a un Marvel aussi. Peut-être que le Marvel de la solitude, bah, il vient de l'histoire sans fin, avec Artax. Peut-être.
Et le songe d'une nuit d'été aussi.
Mais il y a le songe d'une nuit d'été. Alors, le songe d'une nuit d'été. Donc, il y a plein de références semées à Shakespeare. Donc, c'est expliqué dans le deuxième. Vous trouverez des personnages qui proviennent du songe d'une nuit d'été ou pas, ou peut-être que c'est le songe d'une nuit d'été qui provient de ces personnages. Vous le découvrirez. Donc en fait, c'est plein de petites inspirations qui viennent de ça. Je fonctionne rarement par une génie. En fait, c'est souvent des petites idées qui vont s'imbriquer les unes des autres parce que les thèmes se répondent. Parce que, par exemple, le songe d'une nuit d'été s'est venu très vite s'imposer comme une référence de comédie. Et puis même les thèmes de Shakespeare, avec par exemple le déguisement, la quête d'identité, qu'on peut jouer notamment dans le son d'une nuit d'été, c'est important pour le roman, pour le roman. Et du coup, ça s'est greffé de manière très très naturelle, pas pour vous réfléchir ça.
Sigurd Bilder, on a donc cette situation particulière où, là, plus que le rêve, et le titre le dit bien, c'est aussi la question de la mémoire, c'est essayer de se rappeler de ce qui a pu se produire, se passer avant, pour essayer finalement de comprendre le présent. Ça veut dire aussi qu'il y a toute une enquête pour les quatre personnes avec Mathieu. Là, il y a aussi ça, hein, il y a aussi ce travail d'essayer de faire parler ceux qui savent, ceux qui ont les clés. C'est pas évident.
On peut dire effectivement que c'est pas super super évident dans le roman, du moins. Et pour revenir en fait sur le travail sur la mémoire, on m'a souvent parlé en fait, on m'a souvent demandé dans le cadre de Memorex si j'avais fait des recherches spécifiques donc sur le sujet de l'expérimentation scientifique et particulièrement sur ce qui concernait donc la mémoire, les souvenirs, etc. Et je peux répondre que quand j'ai commencé donc à me documenter sur ce roman, j'ai pu revoir donc une conférence qui s'appelait sur le sujet donc du brain hacking, donc en gros le piratage du cerveau. Et quand j'ai vu ce titre-là, je me suis dit waouh, je sais pas ce que le gars a fait avant ou ce qu'il a bu, mais bon, c'était assez louche. Et donc quand j'ai commencé un petit peu à vraiment rentrer dans le sujet et à écouter ce que le conférencier pouvait dire là-dessus, en fait tout paraissait très très concret. Au tel point qu'il suffisait presque, je vais dire, d'appuyer sur un bouton pour que ça devienne plausible, mais c'était presque ça. Je pense qu'au niveau technologique où nous en sommes, peut-être que la frontière justement entre rêve, ce qui paraissait encore le rêve il y a quelques années, et notre réalité commence vraiment, vraiment à se brouiller. Et justement au niveau de l'expérimentation scientifique, ce qui fout un petit peu la frousse quand même.
C'est là qu'on voit qu'on est vraiment... alors que le roman démarre vraiment comme un thriller, petit à petit, on avance, et de plus en plus, on se rapproche vers une histoire qui touche à la science-fiction.
Oui, et c'est juste...
Espérons que ça reste longtemps la science-fiction, d'ailleurs.
J'en suis pas certaine, effectivement, que ça reste.
Cette table ronde, là, ces dernières heures, je commence à m'inquiéter très sérieusement.
En même temps, le titre de celle-ci fait un peu flipper.
Certes.
On m'a demandé si c'était parce que les auteurs avaient tous des têtes de psychopathes. J'ai pas osé répondre à ce
sujet. Si avec des têtes, ça serait pas grave. La question, c'est de savoir est-ce qu'ils le sont vraiment ou pas.
Ça, je n'oserais pas dire. Sur, pour revenir donc sur le thème du bouquin, pour le, en ce qui concerne l'expérimentation scientifique, je pense effectivement que dans quelques années, c'est pour ça que j'ai voulu le situer dans un futur proche, je pense qu'effectivement on verra pas mal de choses qui nous semblent encore totalement imaginaires maintenant et devenir quand même de l'ordre de la réalité, je le pense.
On l'a bien compris, la particularité du bibliomancien, c'est donc qu'il puise son pouvoir à l'intérieur des livres. Le truc, c'est que quand il sort de sa bibliothèque, il faut bien quand même qu'il puisse continuer à exercer ce pouvoir. C'est pas super, super évident. Comment est-ce qu'il se débrouille pour justement voilà, avoir son arsenal sur lui?
Speaking as someone who is not a psychopath, Isaac, he has a jacket, a trench coat, and he has so many, many pockets inside. You may notice many, many pockets. And some of them are the size of mass market paperbacks, and some of them are larger for hardcovers. And he has strategically positioned some of these pockets. So there's a hardcover right here, protecting his heart. So if you try and stab him in the chest, the book will protect him. Unless he has taken that book out to use, in which case he's out of luck. And he has gotten the trench coat because partly it will hold more books, but partly it makes him look like Duncan MacLeod. And like the 10th Doctor. And like Malcolm Reynolds from Firefly. And the next thing, at one point his coat gets destroyed. And so he reaches into a Doctor Who tie-in novel and actually pulls out David Tennant's, the 10th Doctor's coat. And if you remember, the Doctor's pockets are bigger on the inside. Many more books.
Alors, je parle du point de vue de quelqu'un qui, bien sûr, n'est pas un psychopathe. Isaac, donc, il a un grand, grand manteau, un trench coat, où il y a beaucoup, beaucoup de poches, hein, comme Jim vous a montré, il y a beaucoup de poches dans son manteau.
Comme les beaux gilets avec les aussi.
Oui, exactement, comme les gilets des imaginaires. Et en fait, ces poches ont tout un tas de tailles différentes. Donc, il y a des poches qui ont la taille de livres de poche. Il y a des poches qui ont la taille de gros, grand format cartonné ou grand format souple. Et elles sont toutes stratégiquement placées, notamment il en a une au niveau du cœur, où il met un bon gros bouquin cartonné, ce qui fait que si Jim essaie de le poignarder, ça protège son cœur. Bon, sauf s'il a sorti le livre pour s'en servir, auquel cas, c'est raté. Et en fait, il a ce long trench coat, bien sûr, parce que ça lui permet de transporter davantage de livres, mais quand même aussi parce que ça le fait ressembler à Duncan MacLeod de Highlander. Puis aussi parce que ça le fait ressembler au 10e Docteur dans Doctor Who. Puis aussi parce que quand même ça le fait ressembler à Malcolm Reynolds dans Firefly. Et il y a un moment dans le livre, en fait, son manteau est détruit. Et donc, pour en récupérer un autre, il prend un spin-off, enfin une novélisation de Doctor Who. Et il tire le véritable manteau du 10e Docteur, celui que portait David Tennant. Et c'est en partie aussi parce que, bah forcément, c'est le manteau du Docteur. Donc les poches, c'est comme le TARDIS, elles sont plus grandes à l'intérieur. Ça veut dire qu'on peut transporter encore plus de livres.
Alors, question polémique. Le vibrio ancien ne devrait-il pas passer au numérique?
Oui. treat liberal medicine like science. We have a number of people who think they know how things work, and then somebody comes along and discovers something new, and everybody, oh, how do you do that? How does that work? How do we figure? For many years, for centuries, Gutenberg and all of his students, all of his disciples, assumed you have to have a physical book. You need print. And when ebooks came along, all of the Librium answers were like, no, you cannot use ebooks. And then there's this teenager named Janita who is reading a book on her phone in math class and pulls out a snake by accident because she's young and she doesn't know what she's doing. And so now 500 years of libriomancy, of certainty, has all been broken by this teenage girl, which is awesome. And Isaac loves it. He's like, this is so great. Teach me. How do you do this? So yes, ebooks work for libriomancy, but they're still figuring out why.
Je me suis forcé de traiter la bibliomancie comme une science. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de gens qui pensent savoir comment les choses fonctionnent. Et à un moment, il y a quelqu'un qui débarque et qui apporte quelque chose de totalement nouveau. Et les gens disent, attends, comment t'as fait ça? Comment ça marche? Et dans le cas de la bibliomancie, pendant des siècles, Gutenberg et ses élèves, le discours établi et le principe, c'était... Pour pratiquer la bibliomancie, il faut un exemplaire physique, on a besoin du papier imprimé. Et les livres électroniques, non, ça ne fonctionne pas. Jusqu'à ce que, dans le deuxième livre, une adolescente du nom de Janita, pendant un cours de maths, elle était en train de lire un livre sur son téléphone, et elle sort de son téléphone, sans parler avec un serpent. Parce qu'elle est jeune et qu'elle ne sait pas ce qu'elle fait. Et d'un seul coup, il y a 500 ans de bibliomancie qui se trouve complètement balayée par cette adolescente. Et je trouve que c'est une idée trop géniale d'avoir ce genre de changement de paradigme. Et Isaac, il adore ça aussi. La première chose qu'il dit, c'est « Montre-moi, comment tu fais ? Apprends-moi ça. » Donc, oui, ça fonctionne, mais on n'a toujours pas très bien compris pourquoi.
On arrive au terme de cette table ronde. Il y a un dessin de Goya qui s'appelle « Le songe de la raison engendre des monstres ». Je ne parle pas pour les auteurs, je parle plus pour leurs personnages quand même. Vous voyez qu'on colle quand même assez à ces univers que nous avons découverts, ces univers oniriques, et assez délirants. Et bah, je vais remercier les quatre auteurs présents autour de moi. Je vous remercie, vous, d'avoir expliqué, d'avoir écouté et attentivement. Et je vais remercier le sosie officiel français de G-Minds, alias Lionel Davoust.